Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série, notre deuxième série, si ce n'est pas la troisième, parce que j'ai déjà fait des séries il y a bien des années de cela. Donc, il s'agit de la démonologie. Nous arrivons à l'étude numéro 11, et le terme, c'est « étude de cas pratique ». Je vais à présent exposer une série de cas pratiques permettant de montrer comment rechercher les portes d'entrée ouvertes par les démons. Tous ces cas sont absolument véridiques, mais vous comprendrez que j'ai dû changer certains noms de certaines personnes, et ceci pour les protéger. Je présenterai dans un autre CD d'autres cas de délivrance de personnes qui étaient dans le satanisme carrément. Nous prenons le cas numéro 1. Il s'agit de Suzanne, 33 ans maintenant. Ce cas est évidemment un cas extrême. Et n'allez pas penser que tous les cas sont ainsi, évidemment pas. Ou si, je répète, c'est un cas extrême. Suzanne ne savait rien de son père parce qu'il avait abandonné sa mère avant sa naissance. Toutefois, il y a une longue histoire de maladie mentale dans la famille de sa mère, et de nombreux membres de cette famille étaient profondément engagés dans la franc-maçonnerie et dans les Shriners. C'est une secte occulte. Donc les portes d'entrée, vous comprendrez, c'est l'hérédité, la franc-maçonnerie, les Shriners, et sans oublier la maladie mentale. Suzanne a été vaguement élevée dans la religion catholique. Elle a rarement fréquenté une église, mais elle a reçu le baptême catholique ainsi que la confirmation, et elle allait communier de temps en temps. Les portes d'entrée possibles sont le catholicisme romain et le baptême. Le baptême de bébé, d'enfant. Suzanne avait 6 ans lorsque sa mère s'est remariée. Son beau-père a commencé à abuser d'elle lorsqu'elle avait 6 ans. Il l'obligeait même à avoir des relations sexuelles avec lui et même avec leur chien. Porte d'entrée, inceste et bestialité. Comme cela arrive fréquemment chez les enfants qui ont fait l'objet de violences sexuelles, Suzanne a commencé à s'engager dans de nombreuses relations sexuelles au début de son adolescence. Les portes d'entrée sont multiples, c'est-à-dire de multiples partenaires sexuels. Les démons de perversion sexuelle semblent avoir des jumeaux qui marchent la main dans la main avec eux. Ce sont les esprits de violence. Suzanne découvrit qu'elle devenait de plus en plus violente. Bien sûr, ça n'arrange rien. Elle avait de nombreuses querelles, des chicanes, avec ses divers partenaires lesbiennes, car une jalousie féroce se rencontre très fréquemment dans toutes les relations homosexuelles. Les portes d'entrée sont donc violence, multiples partenaires lesbiennes. En 1982, Suzanne a eu une terrible querelle avec sa partenaire lesbienne et a fini par la tuer. Évidemment, elle a été en prison. Le jugement fut assez, on peut dire, clément pour homicide involontaire. Un bon avocat a pu démontrer que elle ne voulait pas tuer sa partenaire sexuelle, mais que c'était involontaire. Et elle a passé que 25 mois en prison. Mais tout de même, la porte d'entrée pour des démons, c'est le meurtre. Alors qu'elle était en prison, Suzanne se mit à réfléchir sérieusement à sa situation. Elle décida que sa vie devait changer. Elle rompit avec toutes ses relations, elle cessa complètement de se droguer et de boire, et abandonna aussi toute pratique lesbienne. Elle fut libérée avant terme, et cela en raison de sa bonne conduite. Mais le conseil de surveillance a exigé qu'elle fréquente régulièrement après sa libération le gay AA, organisme de survie homosexuel alcoolique, et qu'elle s'est joint à la Metropolitan Company Church, église de communauté métropolitaine. Cette église n'est pas absolument une église chrétienne dans le sens absolument véritable et profond, car on n'y accepte pas toute la parole de Dieu, telle qu'elle est par exemple écrite dans la Sainte Bible. C'est une église qui est fréquentée par tous les homosexuels et lesbiennes, en raison de son association forcée avec des homosexuels. Eh bien, Suzanne ne tarda pas à retomber à nouveau dans des relations lesbiennes et des disputes violentes. Mais ce fut avec l'une de ses partenaires qu'elle parvint à un tournant de sa vie. Une nuit, alors qu'elle se disputait avec sa partenaire sexuelle, Suzanne a tout à coup vu un démon faire surface et se manifester au travers de l'autre jeune fille, c'est-à-dire sa partenaire sexuelle. En raison de son expérience passée dans la sorcellerie des années auparavant, elle reconnut très clairement la présence d'un démon. Ceci la terrifia. Elle dit à sa partenaire qu'elle avait besoin d'aide. Elle ne savait pas où se tourner pour être aidée face à un démon. Mais quelques jours plus tard, elle a vu une information à la télévision annonçant des réunions chrétiennes sous une tente dans son quartier. Suzanne dit à sa partenaire qu'elle devait aller à ces réunions sous tente pour voir si quelqu'un pouvait la débarrasser de ce fameux démon. Aussi, les deux jeunes femmes se sont rendues aux réunions sous la tente. Mais voilà que la partenaire de Suzanne a tout à coup changé brusquement d'avis et elle est partie après seulement 5 minutes de réunion. Mais Suzanne resta. Elle resta curieuse de voir ce qui arriverait, car elle n'avait jamais assisté à une réunion chrétienne véritable. Elle dit que la seule chose qu'elle a pu comprendre au cours de cette réunion, c'était une déclaration du prédicateur qui dit « Le chemin est étroit et il y en a peu qui le trouvent ». Elle ne savait pas ce que était ce chemin étroit, mais elle décida qu'il fallait qu'elle le découvre. Après la réunion, elle s'approcha et elle se joignit à la file de personnes qui attendaient que l'on prie pour elle, espérant avoir l'occasion d'interroger quelqu'un au sujet de cette voie étroite. Le prédicateur passa de l'un à l'autre et s'arrêta devant Suzanne pour prier. Il ne lui donna pas l'occasion de poser une seule question, mais il étendit simplement la main pour la poser sur son front. Des témoins qui étaient à côté, qui se trouvaient là, dirent par la suite que à l'instant où la main du prédicateur la toucha, le corps de Suzanne fit un bond en arrière et fut projeté en l'air et retomba au sol à peu près 7 mètres de l'endroit où elle se tenait. Suzanne ne se rendit pas compte du choc car elle avait perdu connaissance. C'était une réunion charismatique. Plusieurs personnes s'assemblèrent donc autour de Suzanne, lui imposèrent les mains et prièrent en langue sur elle. Lorsque Suzanne reprit connaissance, elle parlait en effet en langue. Tous les gens se réjouirent et dirent à Suzanne qu'elle était maintenant sauvée, qu'elle était délivrée et remplie du Saint-Esprit. Hélas, oui, hélas, Suzanne n'avait absolument aucune idée de ce qu'il fallait faire pour être sauvée. Elle ne savait pas qui était Jésus, ni ce qu'il avait fait. Les chrétiens qui avaient fait ces réunions sous tente avaient commis une très grave erreur. Ils pensaient que le Saint-Esprit travaillait et travaillerait d'une manière en quelque sorte magique en assommant les gens et en réglant tous leurs problèmes pendant qu'ils étaient absolument sans connaissance avec l'esprit totalement vide. Il n'en est absolument pas ainsi. C'était les démons qui avaient assommé Suzanne, et il était certain qu'elle n'était ni sauvée ni délivrée. Là, les portes d'entrée sont les fausses langues. La conséquence de cette expérience a été que Suzanne décida qu'elle était dorénavant sauvée et remplie du Saint-Esprit, pourquoi pas, et qu'elle devait se procurer une Bible et trouver une église. Elle se procura effectivement une Bible, mais elle ne la lisait jamais, car elle ne pouvait pas la comprendre du tout. Alors elle s'est jointe à une église épiscopalienne charismatique et elle a décidé de marcher droit. Elle ne fréquentait son église que depuis moins de 3 mois lorsqu'elle fut invitée à se joindre à l'équipe des conseillers spirituels. Et pourtant, Suzanne n'était même pas sauvée. mais en raison de sa grande connaissance de la méditation transcendantale et de l'hypnose, elle est devenue rapidement une experte dans leur technique de conseiller et de guérison intérieure par la visualisation et par l'auto-hypnose. Là, les portes d'entrée sont la méditation transcendantale, l'hypnose, guérison intérieure, la visualisation et l'auto-hypnose. Parce qu'elle avait décidé de marcher droit, Suzanne fut encouragée à se marier pour apporter une solution à son problème d'homosexualité. Elle épousa donc un jeune homme qui faisait également partie de l'équipe des conseillers de l'Église. Mais, ce mariage ne dura que 6 mois parce que Suzanne découvrit rapidement que ce jeune homme était profondément impliqué dans le, et ça vous n'allez pas le croire, dans le satanisme, et qu'elle était terrorisée par ce qu'il faisait. Les portes d'entrée, dans ce cas, sont les démons provenant d'un mari sataniste. Elle se procura quelques bons livres par la suite au sujet de l'importance du salut, et qu'elle accepta ainsi Jésus-Christ comme son sauveur et son seigneur, et qu'elle a complètement rompu avec sa partenaire lesbienne du moment. Et ce fut à ce moment-là que Suzanne fut définitivement et complètement délivrée. Peut-être pensez-vous que cette histoire est une fabulation ou peut-être quelque chose d'exceptionnel. Mais permettez-moi de vous dire que ces situations sont très fréquentes, surtout de nos jours. En écoutant le récit de la vie de Suzanne, non seulement j'ai pu établir une liste de portes d'entrée, mais j'ai su également qu'elle avait établi un lien entre son âme et son esprit à cause de ses contacts avec le monde spirituel. Elle a eu ses premiers contacts à l'âge de 14 ans, lorsqu'elle commença à pratiquer la sorcellerie, le spiritisme et la projection astrale, sans compter des contacts et des choses sexuelles hors normes qu'on n'ose même pas nommer ici. Suzanne avait un sérieux problème de passivité intellectuelle en raison de sa pratique approfondie de la méditation transcendantale et de l'auto-hypnose. Elle avait donc des difficultés à conserver un emploi stable, parce qu'elle ne pouvait plus contrôler le moment où le vide se faisait dans ses pensées. Il se produisait donc là un vide dans ses pensées à des moments capitaux, et à cause de cela, elle perdait son emploi. Cette intelligence passive s'avéra être le problème le plus difficile que Suzanne a eu à résoudre après sa délivrance. Voici la liste de ses portes d'entrée, et voici comment son Église a pu procéder pour sa délivrance. Les portes d'entrée, dans son cas, étaient premièrement l'hérédité, la franc-maçonnerie, les Shriners, la maladie mentale de sa famille, hérédité due à un père inconnu, Cependant, en raison de la vie qu'elle avait eue, il y avait aussi certainement, une hérédité provenant de sa mère, et ceci a dû également être brisé. Nous avons donc l'inceste, rappelez-vous, les relations sexuelles multiples pendant l'adolescence, la sorcellerie, le spiritisme, la cartomancie, les tarots, le vaudou, l'hypnose, la divination et les planchettes Ouija. C'est déjà pas mal. En plus, les projections astrales, elle en était capable. La méditation transcendantale, les drogues, l'alcoolisme, des multiples partenaires lesbiennes, la violence et le meurtre, rappelez-vous. Les démons également reçus par un mari qui était sataniste. La procédure suivie pour la délivrance était donc assez laborieuse et pénible. Prenons l'étape numéro 1. Suzanne réaffirma son acceptation de Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Elle demanda également au Seigneur Jésus-Christ, de manière très précise, de devenir aussi son maître dans tous les aspects de sa vie. Puis, elle s'adressa à haute voix à Satan et à ses démons pour leur dire qu'elle était à présent une servante de Jésus-Christ et qu'elle ne les servait plus jamais et qu'elle ne les servirait plus du tout jamais jusqu'à la fin de sa vie. L'étape numéro 2, Suzanne passa en revue toute la liste des portes d'entrée qui avaient été ouvertes aux démons. Elle cochait ainsi chaque porte d'entrée dès qu'elle avait fini de la refermer. Refermer une porte d'entrée comporte deux marches ou deux démarches, c'est-à-dire une prière qui doit être adressée au Père Céleste, au Seigneur, ensuite un commandement qui doit être adressé au démon. Voici quelques exemples que je espère de pouvoir vous donner d'une façon fidèle et précise. Prenons premièrement la prière. Père, Père Céleste, au nom de Jésus, je te demande humblement de me purifier de tout ce que j'ai hérité de mon père et de ma mère. Je refuse d'avoir quoi que ce soit provenant de Satan dans ma vie. Je te prie de briser définitivement tout lien d'hérédité dans ma vie. Je t'en remercie au nom de Jésus. Commandement. Au nom de Jésus-Christ mon Seigneur, je commande maintenant à tous les démons qui sont entrés dans ma vie par l'hérédité de me quitter immédiatement. Au nom de Jésus-Christ, je brise tous les serments et engagements pris par mes parents et ancêtres dans la franc-maçonnerie, dans les Shriners et qui liaient leur descendance. Je commande donc à tous les démons associés à la franc-maçonnerie et aux Shriners de me quitter immédiatement au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur. Prière. Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, je te prie de me purifier de tous ces péchés. Je te le demande et je t'en remercie au nom de Jésus. Commandement. Au nom de Jésus, je commande à tous les démons, entrez en moi, de me quitter immédiatement. Prière. Père Céleste, dans le précieux nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, je te demande de me pardonner et de me purifier du péché d'inceste commis avec mon beau-père. Je te remercie pour ton pardon au nom de Jésus. Commandement. Au nom de Jésus-Christ, je commande à tous les démons, entrez en moi, au travers de toutes les relations sexuelles que j'ai eues avec mon beau-père, de me quitter maintenant. Prière. Père Céleste, au nom de Jésus, je te demande humblement de me pardonner d'avoir eu des relations sexuelles avec le chien. Je te prie de me purifier complètement de cet affreux péché. Merci de tout mon cœur de me purifier au nom de Jésus. Commandement. Au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur, je commande maintenant à tous les démons entrés en moi par ces relations sexuelles avec des animaux, de me quitter immédiatement. Entre parenthèses, je dois vous dire que j'ai eu été témoin d'une chose qui s'est passée ainsi. Incroyable mais vrai. Je ne veux pas rentrer dans les détails, c'est trop long. La prière. Père Céleste, au nom de Jésus, je te demande de me purifier complètement des nombreux péchés que j'ai commis par toutes les relations sexuelles que j'ai eues pendant mon adolescence. Je reconnais que tout ceci est une abomination pour toi. Et je me repens de ces péchés-là. Merci de me purifier au nom de Jésus. Et Suzanne se repentit également de toutes les relations individuelles dont elle pouvait se rappeler en les citant chacune séparément. Commandement. Au nom de Jésus-Christ, je commande maintenant à tous les démons entrés en moi par toutes les nombreux contacts sexuels que j'ai eus pendant mon adolescence de me quitter immédiatement. Prière. Père Céleste, dans le précieux nom de Jésus, je te demande humblement pardon pour toutes mes pratiques de sorcellerie. Je renonce à toutes ces pratiques. Je m'en repens et je ne les ferai plus jamais. Père Céleste, je te prie de me purifier de tous ces péchés. Je t'en remercie au nom de Jésus-Christ. Commandement. Au nom de Jésus-Christ, je renonce complètement à tout engagement dans la sorcellerie. Je commande à tous les démons entrés en moi par ces pratiques de sorcellerie de me quitter immédiatement au nom de Jésus. Prière. Père Céleste, au nom de Jésus, je te demande pardon d'avoir permis que mon corps soit utilisé en tant que médium pour que des démons s'expriment à travers moi. Je te demande de me purifier complètement du péché d'avoir été une médium et une spirit. Je t'en remercie dans le précieux nom de Jésus. Commandement. Au nom de Jésus-Christ mon Seigneur, je renonce maintenant à toutes mes pratiques de médium spirit. Je commande à tous les démons entrés en moi lorsque j'étais médium et que je pratiquais le spiritisme de me quitter immédiatement. Étape numéro 3. Suzanne avait pratiqué la sorcellerie, le spiritisme, la projection astrale, l'hypnose, la méditation transcendantale et la visualisation. À cause de cela, nous savions qu'elle était profondément en relation avec le monde spirituel. Elle avait appris à se servir de son corps spirituel, établissant ainsi un lien démoniaque entre son âme et son esprit. Je demande donc aux personnes qui ont communiqué avec le monde spirituel de procéder à une purification générale lorsqu'ils ont terminé de fermer toutes les portes d'entrée. Purification générale, donc, de l'esprit. Purification générale en tranchant entre l'âme et l'esprit. Purification des pensées. Purification de la volonté. Purification des émotions ou des sentiments. Purification du corps physique. Prière. Prière pour purifier l'esprit. Et oui, Père Céleste. Au nom de Jésus, je te demande de me pardonner l'usage que j'ai fait de mon esprit en dehors de ta volonté et de purifier entièrement mon esprit de tous les démons qui peuvent y rester. Je te demande de sceller mon esprit pour que personne ne puisse plus jamais le contrôler si ce n'est toi. Je t'en remercie au nom de Jésus. Commandement. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur, je commande à tous les démons qui restent dans mon esprit ou qui oppressent mon esprit de me quitter immédiatement. Plus jamais mon esprit ne sera utilisé pour servir Satan ni aucun démon. Prière. Pour trancher entre l'âme et l'esprit, Père Céleste, au nom de Jésus, je te demande de m'enlever complètement et pour toujours toute capacité de communiquer avec le monde spirituel d'une manière quelconque, si ce n'est par la volonté du Saint-Esprit. Par conséquent, je te demande de couper tout lien qui peut exister entre mon âme et mon esprit une fois pour toutes. Selon Hébreux, chapitre 4, verset 12. Et de chasser tous les démons qui me donnent la capacité d'utiliser mon esprit et de communiquer avec le monde spirituel. Commandement. Au nom de Jésus-Christ, je commande à tous les démons qui établissent un lien entre mon âme et mon esprit et qui me donnent la capacité de communiquer avec le monde spirituel et de faire de la projection astrale, de me quitter immédiatement. Prière. Prière pour la purification de pensée. Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, je te demande de purifier, de guérir et de renouveler complètement mon intelligence et mes pensées. Je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai délibérément abandonné le contrôle de mes pensées. Je veux utiliser mon intelligence pour te servir et pour t'honorer. Je te prie de m'aider à regagner le contrôle de mon intelligence et de mes pensées. Je t'en remercie dans le saint nom de Jésus-Christ. Commandement. Au nom de Jésus-Christ, je commande à tous les démons qui restent dans mon intelligence ou qui oppressent mon intelligence de me quitter maintenant, immédiatement. Prière. Prière pour la purification de la volonté. Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, je te demande pardon d'avoir employé ma volonté pour commettre tant de péchés. Je te demande aussi pardon d'avoir laissé ma volonté devenir tellement passive en permettant ainsi aux démons de me contrôler. Je te prie de purifier ma volonté et d'envoyer ton Saint-Esprit dans ma volonté pour produire en moi le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Philippiens chapitre 2, verset 13. Commandement. Au nom de Jésus-Christ mon Seigneur, je commande à tout démon restant dans ma volonté ou contrôlant ma volonté de me quitter maintenant immédiatement. Prière. Prière pour la purification des émotions. Oui, Père Céleste, au nom de Jésus, je te demande de me pardonner pour toute ma haine, mon amertume, ma convoitise et pour tous les autres sentiments de péché. Pardonne-moi d'avoir vécu pour satisfaire mes propres émotions. Je te prie de purifier et de guérir mes émotions et mes sentiments afin qu'ils te soient agréables. Commandement. Au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur bien-aimé, je commande à tout démon restant dans mes émotions et mes sentiments ou qui contrôle encore mes émotions et mes sentiments de me quitter maintenant, immédiatement. Prière. Prière pour la purification du corps physique. Père Céleste, je me repens humblement et sincèrement de toutes les choses terribles que j'ai faites avec mon corps, en péchant ainsi contre toi. Au nom de Jésus, je te demande de purifier complètement mon corps et de le guérir. Je te prie, Seigneur, de m'aider à utiliser mon corps physique uniquement pour te plaire et t'adorer dans tout ce que je ferai. Je t'en remercie dans le précieux nom de Jésus. Commandement. Au nom de Jésus-Christ, je commande à tout démon restant dans mon corps physique de me quitter immédiatement. Maintenant, le commentaire est donc le suivant. Écoutez bien. Suzanne a éprouvé de très grandes difficultés pour chasser les démons qui ont été entrés en elle par la méditation transcendantale, par l'hypnose et la visualisation. Elle avait passé de nombreuses heures à faire le vide, je dis bien le vide, dans ses pensées, par ses exercices intensifs de méditation. Lorsqu'elle tentait de commander à ses démons de partir, elle perdait connaissance ou elle éprouvait une confusion mentale complète. Elle a lutté pendant au moins une heure, liant sans cesse les démons, jusqu'à ce qu'elle parvienne enfin à les contrôler. Elle pria donc le Seigneur de l'aider et de la fortifier à mesure que pour la première fois de sa vie, elle entraînait sa volonté et sa discipline à lutter pour empêcher le vide de se faire dans ses pensées. Le suivi après la délivrance était le suivant. Après sa délivrance, Suzanne continua à lutter pour le contrôle de ses pensées. Elle avait permis à son intelligence de devenir, on peut bien dire, en quelque sorte, comment faut-il dire cela, extrêmement passive. La passivité, c'est là le problème. Elle se força donc à s'engager dans, on peut dire, dans un programme d'apprentissage par cœur de nombreux versets bibliques. Et au cours des premières semaines, évidemment, il arriva qu'elle chuta parfois en laissant le vide se faire dans ses pensées, involontairement cette fois-là. Mais chaque fois qu'elle réalisait qu'elle avait laissé le vide se faire dans ses pensées, involontairement, je dis bien, pendant un petit moment, elle confessait immédiatement ce péché-là. Et elle chassait immédiatement, au nom de Jésus-Christ, tous les démons qui essayaient de revenir pendant ce moment où elle avait fait le vide dans ses pensées. Ce combat, évidemment, a été très intense, mais sur une période de plusieurs mois, tout de même. Voyez, ce n'est pas en claquant des doigts que on peut faire cela en 5 minutes. Suzanne a repris de plus en plus le contrôle de ses pensées et une fois qu'elle a eu atteint ce résultat, elle a pu à nouveau conserver un emploi stable. Suzanne a eu aussi des combats pour apprendre à marcher par la foi et non pas par les sentiments. Elle avait été habituée à éprouver de nombreuses émotions, rappelez-vous, extrêmement fortes, y compris dans la sexualité. Elle était passée par des moments de grande excitation émotionnelle et de grande convoitise, comme par des moments de grande dépression émotionnelle également. Elle voulait ressentir l'amour de Dieu et éprouver de grandes émotions en ressentant l'amour de Dieu. Elle voulait ressentir de la joie et avoir le désir de lire la Bible au lieu de la lire par simple obéissance, sans tenir compte des sentiments. À mesure que le temps a passé, une fois qu'elle a eu bien appliqué sa volonté à marcher dans l'obéissance au commandement de Dieu, tel qu'il les avait donnés dans la Sainte Bible, et sans s'occuper de ses sentiments, elle a vu ses émotions commencer à se calmer, et elle n'éprouva plus une telle alternance d'émotions extrêmes. Chers amis, tous ceux, voyez-vous, tous ceux qui ont été infestés de démons pendant autant d'années comme Suzanne, doivent comprendre qu'il leur faut au minimum une année pour se stabiliser après leur délivrance de la volonté et de la discipline. Cela prend bien entendu du temps et de la persévérance, et aussi de l'obéissance à la sainte parole de Dieu pour apprendre à marcher avec le Seigneur dans la foi. Soyez donc patients, le Seigneur accomplira certainement de grands changements dans votre vie, mais cela prendra assurément un peu de temps. Et ne soyez pas impatients, des choses comme ça ne peuvent pas se faire en claquant des doigts. Nous arrivons au cas numéro 2 pour aujourd'hui. Il s'appelle Ron. Il a 30 ans. Voici donc l'histoire de Ron telle qu'il la raconte. Les parents de Ron étaient chrétiens, même missionnaires au Mexique. Ils ne connaissaient aucun problème d'hérédité, car ses deux parents descendaient d'une longue lignée de chrétiens véritables. Tout alla très bien jusqu'à ce que Ron a atteint l'âge de 16 ans. Voilà qu'à cette époque, sa famille rentra aux États-Unis pour y passer une année. Malheureusement, sa mère a commis l'adultère, ce qui a brisé leur foyer. À la suite du divorce de ses parents, Ron a traversé une période de grands troubles émotionnels. Pour la première fois, il a recherché le Seigneur d'une manière personnelle. Il accepta Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Il fit une expérience profonde avec le Seigneur et il se mit à servir Dieu avec beaucoup d'enthousiasme. Sa joie était de lire sa Bible et de prier. 6 mois environ après avoir été sauvé, Ron fut invité à un camp de réveil pour jeunes chrétiens. Il s'y rendit et apprécia énormément le week-end. L'enseignement était bon, sauf sur un point concernant le baptême du Saint-Esprit. À la fin de la dernière réunion du camp, qui fut très émotionnelle dans l'ensemble, une invitation a été adressée à tous ceux qui voulaient recevoir le baptême du Saint-Esprit. Bien entendu, Ron voulait le recevoir. Il se leva donc et s'approcha de l'estrade pour que l'on prie pour lui. Hélas, on demanda à ceux qui s'approchaient de fermer les yeux et de lever les bras, puis on leur demanda de secouer leurs bras et leurs mains, de les relaxer, d'arrêter complètement de contrôler leurs bras et leurs mains, puis de faire le vide dans leurs pensées et abandonner le contrôle de leur intelligence et de leur corps, soi-disant au Saint-Esprit. On leur dit que s'ils faisaient cela, le Saint-Esprit serait alors libre d'entrer en eux et de les contrôler complètement. Ron était bien trop jeune converti pour comprendre le caractère erroné de cet enseignement. Il s'efforça donc de suivre scrupuleusement ses instructions. Ron, il dit plus tard que lorsqu'il a commencé à relaxer ses bras et ses mains et à s'efforcer de faire le vide dans ses pensées, il a senti soudain quelque chose prendre contrôle de son corps. Puis il sentit une décharge d'énergie descendre le long de ses bras jusque dans son estomac avec une telle puissance qu'il fut projeté en arrière comme assommé. Il sentit comme une boule de feu dans son estomac qui se répandit dans sa poitrine et il commença à parler en langue. Il fut donc rempli de joie. Il riait sans arrêt et rentra chez lui en riant et en pensant qu'il avait été baptisé du Saint-Esprit. Malheureusement, Ron avait rempli toutes les conditions pour recevoir, hélas, un mauvais esprit, en faisant le vide dans ses pensées et en abandonnant le contrôle de son corps. Peu après le camp, quelqu'un donna à Ron un livre qui enseignait comment entrer, ou plutôt comment entendre, le Seigneur vous parler. Ce livre enseignait qu'un chrétien doit faire le vide complet, voilà à nouveau l'erreur, le vide complet dans ses pensées, et de s'attendre calmement au Seigneur pour que le Saint-Esprit puisse lui parler. Ceci, bien entendu, est une erreur complète, mais Ron l'accepta comme étant une vérité, parce que c'est comme cela qu'il avait commencé à parler en langue au camp. À mesure que Ron pratiquait ses techniques, il apprit à faire rapidement le vide dans ses pensées et il ressentit de nombreuses fois cette extase émotionnelle et ce rire qui n'arrêtait des fois pas, qu'il confondait avec la véritable présence du Seigneur Jésus. Au cours de ces moments de méditation, Ron reçut trois esprits guides. Sous quel nom pensez-vous, chers amis, que ces esprits se sont présentés? Eh bien entendu, tout simplement sous le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Sous quel autre nom des esprits guides auraient-ils pu se présenter à un chrétien? Bien entendu, Ron ne se douta absolument pas que ces esprits guides étaient des démons. Il croyait entendre le Seigneur lui parler. Il avait de longues conversations avec le Seigneur et recevant de nombreuses instructions de ses esprits. Toutefois, Ron aurait dû comprendre qu'il n'entendait pas vraiment la voix du véritable Seigneur lorsque ses esprits commencèrent à le conduire dans le péché et dans le péché de toutes sortes de sexualités anormales. Ils dirent à Ron qu'il était quelqu'un de spécial. Alors ils ont tordu et ont déformé les Saintes Écritures pour lui faire accepter toutes sortes de péchés qui allaient directement à l'encontre totale des commandements de Dieu. Ron s'est inscrit par la suite dans une université chrétienne puis dans une école biblique. Au cours de ses études, ces trois esprits guides l'entraînèrent rapidement dans la pornographie, dans de multiples relations sexuelles anormales et finalement dans l'homosexualité. Ron termina ses études et devint, écoutez bien, pasteur adjoint d'une grande église charismatique du Texas. Ça rejoint nos prêtres pédophiles. Il n'y a donc rien de nouveau sous le ciel. Ron était donc pasteur de la jeunesse. Dans cette église, il commença à pratiquer la guérison intérieure en ayant recours à la visualisation et à l'imagination guidée. En raison de son aptitude à faire le vide dans ses pensées et à contacter le monde spirituel, il est devenu un expert dans ces techniques et il était très demandé en tant que membre de l'équipe de conseillers de l'Église. Il attirait régulièrement de plus en plus de jeunes gens dans des pratiques homosexuelles, justifiant constamment ses péchés par les directives de ces trois esprits guides démoniaques. Après environ 3 années passées à ce poste de pasteur de la jeunesse, Dieu, dans sa miséricorde, commença à travailler dans la vie de Ron. Un frère chrétien véritable est venu dans l'église de Ron et le remit en question, lui disant que ses expériences dans le monde spirituel ne viennent absolument pas de Dieu. Ron fut très ébranlé, mais ne pouvait pas accepter la possibilité qu'il était en train d'être séduit, puis en raison des remises en question de ce frère chrétien, il commença à être convaincu que ses pratiques homosexuelles étaient un péché. Il décida de marcher droit et de se marier. Ron commença à fréquenter une jeune femme qui faisait aussi partie de l'équipe des conseillers de l'Église. Mais, voyez-vous, cette jeune femme était au fond une sorcière. C'est pour ça que j'ai fait une étude autrefois au sujet des loups qui entrent dans l'Église. Déguisée. Elle voulait donc épouser Ron et elle commença à manœuvrer tout pour le faire passer sous sa domination. Ron fut paniqué lorsque, pour finir, il comprit que cette femme était en train de contrôler toute sa vie entière. Il s'efforça donc de rompre leur relation et ce fut alors que ses problèmes commencèrent. Chaque fois que Ron n'était pas physiquement en présence de cette jeune femme, elle éprouvait de très violentes douleurs abdominales. Il a atteint très vite le point où il ne pouvait plus du tout lire sa Bible ni prier. Effrayé et totalement déprimé, Ron choisit de fuir. Il démissionna de son poste de pasteur adjoint dans cette église et déménagea dans un autre état, vers le nord, pour tenter de trouver de l'aide pour être libéré des incantations que cette sorcière lui avait envoyées. Pendant une année, il allait d'église en église sans trouver aucune aide. Lorsque Ron eut fermé chaque porte, l'une après l'autre, il n'en resta pas là. Il pria aussi pour une purification générale de son esprit, de son âme et de son corps, et pour que le Seigneur tranche entre son âme et son esprit, comme cela a été décrit pour le cas numéro 1, rappelez-vous, Suzanne. Et lorsque tout fut terminé, eh bien, on peut dire que tout le monde qui a aidé Ron, ils étaient tous épuisés. Et le pasteur a dit plus tard qu'il avait aidé Ron pour trouver une très bonne église où il pourrait se sentir bien. Je veux dire que je pense qu'aucun démon n'est sorti par lui-même. C'est ce que plus tard Ron a dit à son pasteur. Il lui disait, « Cher pasteur, il me semble que les démons ne sont pas sortis de moi, car je n'ai rien senti. » Chers amis, c'est une très bonne démonstration du piège dans lequel tombent beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens pensent qu'il faut sentir des tas de choses. Ils pensent ainsi que s'ils ne sentent pas des tas de choses extrêmes et extraordinaires, il ne s'est rien passé. Or, rappelez-vous que la foi, elle ne s'appuie pas sur des sentiments. Vous pouvez trouver tout cela vraiment dans votre Sainte Bible. Ron a vécu une année très difficile après sa délivrance, c'est vrai. Il a recherché continuellement des satisfactions émotionnelles. Il pensait que le Seigneur ne voulait pas établir de relation avec lui parce que il refusait de lui faire éprouver les émotions qu'il recherchait et qu'il avait tellement l'habitude autrefois. Ron continua à être conseillé, heureusement, par le pasteur qui avait conduit l'entretien. Finalement, le pasteur a vraiment, et je l'ai déjà dit, aidé Ron à bien se fixer dans une très bonne église chrétienne. Ce fut une année très pénible, mais Ron a commencé à grandir spirituellement et accepté de marcher par la foi. Il a éprouvé un soulagement immédiat dans la prière. Après sa délivrance totale, il a pu à nouveau lire la Bible sans difficulté. Il a trouvé un emploi et il a pu même garder l'emploi. J'ai le cœur brisé, chers amis, lorsque je vois les dégâts terribles qui sont provoqués par de mauvais enseignements dans la vie de jeunes gens enflammés pour le service du Seigneur. Combien de jeunes comme Ron y a-t-il dans nos églises d'aujourd'hui? Je pense que nous serions effarés si nous le savions. Combien tout cela doit affliger le cœur de notre Seigneur. Je ne louerai jamais assez le Seigneur pour sa patience, pour sa grâce merveilleuse envers nous et envers des personnes telles que Suzanne, telles que Ron et beaucoup d'autres. Jésus est vraiment venu pour libérer les captifs. Alléluia. Nous allons terminer maintenant par la prière. Prions. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous désirons te bénir et te prier, mais nos cœurs sont froids et glacés lorsqu'ils devraient brûler au-dedans de nous. Notre confiance, notre foi chancelle chaque jour lorsque nous devrions nous sentir tellement fortifiés par elle que rien au monde ne puisse nous ébranler. Oh, si nous étions véritablement convertis, ne marcherions-nous pas dans une voie toute nouvelle? Ne serions-nous pas toujours remplis de ferveur, d'espérance, de paix et d'abandon à ta volonté sainte pour toutes choses? Aie donc pitié de nous, sauveur de nos âmes, toi, oui, toi seul, peux leur donner du repos dans cette vie et dans la vie éternelle. Toi seul es puissant pour changer nos cœurs, pour les renouveler par l'action de ta grâce. Seigneur, exauce nos prières et fais éclater en nous toute la divine puissance. Ne permets pas que, touchés, émus de ce qui frappe nos regards et nos sens, nous ne songions point aux choses invisibles et au malheur éternel qui sera notre partage si nous méprisons le salut. Ne permets pas qu'attendris à la vue des souffrances de nos semblables, nous sentions nos cœurs endurcis pour celles que Jésus, notre adorable Sauveur, a endurées pour nous. Ô notre Dieu, subviens à notre misère morale, à notre faiblesse, à notre aveuglement, et daigne attirer à toi nos âmes, nos cœurs et nos pensées. Nous t'invoquons aussi pour tous ceux qui sont nos chers, et nous plaçons toutes nos espérances en toi, Jésus-Christ, notre Seigneur bien-aimé. Amen. Et chers amis, je le répète toujours, vous savez que Dieu vous aime. Et je vous aime également de tout mon cœur. Et je vous demande sincèrement, n'oublions jamais de prier les uns pour les autres. C'est très très important. Soyez bénis et je vous embrasse maintenant de tout mon cœur. Que Dieu vous bénisse, à demain, Dieu voulant, pour la suite de cette série.